améliorer, ça c'est clair. Donc c'est un ensemble, ressources humaines, infrastructures, formation, vision, monitoring, sanctions.
Des sanctions contre les mauvais agents.
Quand les gens ne font pas le travail pour lequel ils sont payés, sanctions, tout ça mis ensemble fait que si tout ça était amélioré, je suis sûre qu'il y aurait un mieux dans la mortalité de notre population.
La Fondation a mis en place un grand laboratoire. Quel est l'impact de ce laboratoire au sein de la population et dans le milieu scientifique africain?
Au sein de la population, je ne dirais pas que l'impact est visible pour le moment parce que nous formons par exemple des jeunes docteurs.
Former un docteur, ça demande beaucoup de temps. C'est un investissement à long terme.
La formation d'un docteur, c'est au minimum 3 ans, maximum 5 ans. Donc c'est un investissement sur le long terme. Et ensuite, qui va travailler et là devient productif.
Combien de docteurs avez-vous déjà formés, si vous pouvez connaître le nombre ou de façon approximative?
Nous avons maintenant formé plus d'une dizaine de jeunes docteurs congolais qui sont déployés dans le pays et c'est un nouvel esprit que nous insufflons. Donc pour moi, je pense qu'on commencera à voir l'impact de la Fondation dans les 5-10 prochaines années. Oui, on se rendra compte, tiens, j'ai été formé à un moment donné ou à un autre par la Fondation congolaise pour la recherche médicale et j'agis de telle manière parce que c'est ça ma formation.
Quel est le profit des personnes que vous formez? Seulement des scientifiques?
Nous ne formons pas seulement scientifiquement, mais aussi moralement, en faisant comprendre quelle est notre responsabilité. C'est-à-dire que les moyens que nous mettons sur la tête de nos étudiants, on leur dit que ce n'est pas pour leurs beaux yeux, c'est pour pouvoir rendre ça, pas à la Fondation, mais c'est rendre cet investissement au pays. Et ça, ils le comprennent bien. Et je pense que quand nous aurons comme ça une centaine, 200, plusieurs formés avec cet esprit, l'impact alors sera visible, surtout qu'ils sont compétitifs, ils seront capables d'aller chercher l'argent. Là, moi, je suis, entre guillemets, seule dans cet exercice. Mais imaginons qu'il y ait une centaine comme ça. On aurait beaucoup, beaucoup de possibilités dans le pays.
Vous faites aussi un travail de sensibilisation sur les filières scientifiques. Qu'est-ce que ça donne comme résultat?
Déjà, avec notre programme Femmes et Sciences, la visibilité que nous mettons sur la recherche, l'impact est déjà là. Beaucoup de jeunes gens sont de plus en plus conscients et veulent se lancer dans la recherche. Donc là, déjà, il y a un impact dans l'intérêt, dans la volonté de vouloir s'engager dans la recherche. Donc je pense que là, nous voyons une courbe qui croît. On a une progression vraiment importante des demandes, même on ne peut pas les satisfaire toutes, mais on voit les demandes, on voit l'intérêt même des parents qui viennent poser des questions, qui veulent qu'on conseille leurs enfants. Donc l'impact est là.
C'est très intéressant que les gens viennent vous voir maintenant, mais du coup ça veut dire qu'avant c'était pas comme ça.
Il y avait peu de jeunes intéressés à la recherche biomédicale, et pas qu'à la recherche biomédicale, à la recherche tout court, parce que déjà, à l'image du chercheur au Congo, c'est un pauvre le chercheur. Il fait pitié le chercheur au Congo. Il a un salaire de misère. Il fait plus de 10 ans d'études, mais il a un salaire de misère. Personne n'a envie de faire 10 ans d'études et ressembler à un miséreux. Alors qu'un médecin, pour le même nombre d'années, le métier est valorisé. Un scientifique, pour le même nombre d'années, voire plus, c'est un métier peu valorisé. Il n'a pas les moyens, on ne lui donne pas les moyens de travailler, on ne lui donne pas le salaire en reconnaissance de sa formation. Pensez-vous que cela donne envie? Bien sûr que non. Donc il fallait donner une image positive de ce métier et c'est ce que la Fondation congolaise a essayé de faire.
Dans la pratique, comment se passe cette valorisation? Comment vous y prenez-vous pour valoriser les filières scientifiques ou la recherche médicale?
En donnant à ceux qui travaillent, en tout cas à la Fondation, un salaire décent qui leur permette de vivre correctement et de montrer qu'on peut s'épanouir dans la recherche au Congo. Mais pour ça, il faut savoir aller chercher ces financements en attendant que le pays puisse mettre sur la table les moyens que l'on met réellement sur la table d'un chercheur pour qu'il réponde aux besoins du pays. Il fallait se redonner une image positive. Bon, moi, je suis venue de l'extérieur avec cette image positive parce qu'on ne s'engage pas dans la recherche pour être milliardaire.
Ça serait donc par passion?
Oui, il faut aller dans la recherche privée, dans l'industrie pharmaceutique. Mais on ne va pas à l'université ou dans une institution de recherche pour être riche, non. C'est parce qu'on est passionné par la recherche. Mais on peut être passionné, mais pour autant, on veut pouvoir nourrir sa famille. On veut pouvoir vivre décemment de son travail. Donc ça, c'était important de montrer que c'était possible de vivre décemment au Congo en étant scientifique. Mais il faut que le pays puisse encourager correctement ces scientifiques.
Comment pourrait-on encourager les jeunes à embrasser des domaines comme la recherche médicale?
Pour les encourager correctement, il faut qu'ils aient compris quel est le poids du chercheur. Parce que là, le chercheur était minimisé parce que je pense que nos autorités ne mesurent pas ou ne mesuraient pas l'importance du scientifique. Dans le monde entier, ailleurs, tous les pays industrialisés ont compris. La Chine a progressé très vite. Pourquoi? Mais parce qu'elle a su faire revenir tous ces scientifiques formés aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez bien que vous allez dans les laboratoires, les trois quarts, il y a beaucoup d'Asiatiques. Et ce sont eux qui tiennent les labos, c'est eux la connaissance. Si on sait faire revenir sa diaspora, qui a une très bonne connaissance, mais cette diaspora va faire un bond dans le pays.
Et cela pourrait booster les progrès.
Et quand si on leur met les moyens d'utiliser ce qu'ils ont appris ailleurs, les progrès vont aller extrêmement vite. Les autres ont compris ça, donc il faut faire revenir les scientifiques congolais qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, pour qu'ils viennent appliquer ce qu'ils ont appris là-bas, ici.
Comment s'y prendre pour attirer ces scientifiques qui sont à l'extérieur?
Pour les attirer, il faut qu'ils puissent nourrir leur famille. Il faut qu'ils puissent vivre correctement. Sinon, personne ne viendra, bien entendu. Personne. Les gens, quand même, veulent vivre correctement. Ils n'ont pas fait 15 ans, 10 ans d'études pour vivre comme des mendiants. C'est pas possible. C'est pas possible.
Ça fait 10 ans, presque 11 ans, que la Fondation congolaise pour la recherche médicale existe. Quels sont vos projets d'avenir?
Les projets, c'est continuer, c'est augmenter. Nous mettons en place des équipes multidisciplinaires. Par exemple, on a formé un bioinformaticien. C'est le premier bioinformaticien formé. Nous voulons que lui puisse former plusieurs bioinformaticiens, plusieurs qui aient beaucoup de biostatisticiens en recherche biomédicale et en sciences humaines. Donc, on veut que dans chaque discipline, il y ait une pépinière. Ça, c'est notre vision. Maintenant, au niveau de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, nous avons maintenant un centre de recherche sur les maladies infectieuses qui est soutenu par la Fondation Mérieux.
La Fondation, elle a des partenaires qui la soutiennent financièrement?
De plus en plus de bailleurs de fonds internationaux qui voient que ce que nous faisons un travail de qualité, je voudrais que la Fondation devienne de plus en plus puissante, de plus en plus forte, qu'elle puisse mieux répondre aux besoins, mieux assister le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, mieux l'appuyer pour pouvoir répondre aux besoins de santé de la population. Parce que, encore une fois, on ne peut pas tout attendre aussi du gouvernement. Quand on regarde la recherche en France, par exemple, que je connais bien, il y a le secteur privé et le secteur gouvernemental, le secteur public. Et il faut que les deux marchent main dans la main. Et il faut qu'au Congo, si on veut que ça fonctionne, il faut la même chose. Je ne vois pas pourquoi dans les pays dits développés, ils ont compris que le secteur public à lui seul ne peut pas s'en sortir et qu'au Congo, le secteur public serait champion et pourrait s'en sortir. Ce n'est pas vrai.
Professeur, quelle est alors votre vision?
Pour moi, la vision, c'est que la Fondation soit de plus en plus forte pour pouvoir jouer encore mieux son rôle, qu'il y ait un impact visible. Je voudrais qu'il y ait un impact visible sur la population, sur la santé de la population congolaise.
Merci beaucoup, professeur. Mais la recherche en général était un domaine plutôt dominé par les hommes. Comment appréciez-vous l'engagement des femmes dans le domaine de la recherche médicale, soit au Congo, soit en Afrique?
Dans la recherche scientifique, en Afrique, il y a environ 30% de femmes. Au Congo, on est à 10-13% selon l'UNESCO. Bon, c'est pas beaucoup, c'est très faible. On est parmi les derniers. Donc, l'engagement des femmes dans les sciences est encore faible. Il y a un effort, là aussi, les stéréotypes sur les femmes engagées dans les sciences sont négatifs et donc ne donnent pas l'envie aux femmes de s'engager. Et là aussi, il faut donc casser ces stéréotypes et la Fondation congolaise pour la recherche médicale s'y emploie.
Comment vous y prenez-vous?
en menant des campagnes de sensibilisation au sein de la population, dans les écoles, à l'université, à la télévision, à la radio. Déjà, moi, je suis une femme et je dirige la Fondation congolaise pour la recherche médicale. C'est la première fondation de ce type au Congo, bon, dirigée par une femme.
Un très bel exemple.
Je pense que j'ai montré qu'en tant que femme, j'ai pu, à titre personnel, montrer que j'étais une bonne scientifique. Donc, je montre par mon exemple que c'est possible pour une femme congolaise d'avoir du succès dans les sciences. Et donc ça, c'était important aussi de montrer cela parce qu'en Afrique, il y a un manque cruel de modèles auxquels les jeunes puissent s'identifier. Parce que quand on a 10, 12 ans, on a envie de ressembler à quelqu'un. Nous nous employons à essayer de mettre en lumière les femmes scientifiques pour donner envie aux jeunes filles, aux élèves, aux écolières, de rêver de devenir des femmes scientifiques.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir été notre invité pour cette émission.
C'est moi qui vous remercie pour cet entretien.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'était l'interview que nous a accordé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Maintenant, vous allez suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un expert nous donne quelques conseils pour prévenir ou gérer le stress. La cigarette électronique serait-elle sans effet néfaste sur la santé? La réponse dans votre rubrique « Vrai ou faux ». Enfin, un détecteur portable d'allergènes pourrait aider le consommateur à se protéger contre les allergies. C'est dans cette édition de Carnet de santé.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour une autre édition de Carnet de santé. Ravie d'être avec vous. Imaginez ceci, vous avez des factures à payer, mais vous êtes sans emploi, peut-être depuis 6 mois, ou alors les enfants n'arrêtent pas de crier, ou peut-être que vous êtes en retard pour une réunion, vous êtes sûrement stressé. Le stress fait en réalité partie de la vie, il peut vous motiver à avancer dans votre travail, mais si vous ne maîtrisez pas votre stress assez rapidement, cela peut sérieusement perturber votre travail, votre vie de famille et même votre santé. En somme, le stress est un réflexe tant psychologique que physiologique de l'organisme devant une situation difficile. Selon une étude réalisée par le site de recherche sur l'emploi Office Vibe, 77% des salariés dans le monde ressentent quotidiennement des douleurs physiques attribuables au stress. Nous nous sommes rendus à Dakar où nous vous avons demandé qu'est-ce qui vous cause du stress. Voici vos témoignages recueillis par Echa Sarai.
Qu'est-ce qu'on fait pour combattre le stress? Oui. Il y a un bon truc pour combattre le stress, c'est la prière.
Okay.
Et se détendre. Donc dans Dakar, il y a beaucoup de spots pour se détendre, notamment aller en bord de plage et aller prendre un verre avec des amis en bord de plage, c'est déjà très bien.
Ah mais il faut travailler, parce que tu travailles, bon, mais il n'y a pas de stress. Hein.
Moi, je pars tous les jours pour m'entraîner. Après, j'écoute la musique. Après, je rentre chez moi. Après, je vais faire étirement. Après, si j'ai fini, je vais me laver. Après, je me repose.
Pour éviter le stress, il faut aussi en parlant, fixer. En parlant, vous fixez un yeux. Bon, comme l'a dit tout à l'heure, le sport. Bon, et parler surtout beaucoup, discuter avec tes amis comme ça.
Pour éviter le stress, je vous recommande de faire du sport, d'écouter des musiques douces ou d'être en réunion, en communication avec d'autres personnes, quoi. Pour discuter, pour échanger des idées, quoi. Et faire des marches. Éviter d'être seul, surtout.
Qu'est-ce qui cause le stress? Comment l'éviter ou le maîtriser? Pour en savoir plus, nous joignons William Heckman, directeur exécutif de l'Institut américain du stress. Monsieur Heckman, merci d'être avec nous.
Oui, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir.
Quels sont les signes qui indiquent que quelqu'un est stressé et comment pouvons-nous comprendre ce qu'est le stress?
Vous savez, c'est une très bonne question. On me la pose souvent. Qu'est-ce qui est le stress? Pour être honnête avec vous, il n'existe pas une définition unique du stress. Ce qui semble être stressant pour vous peut être réellement agréable pour moi. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le plus souvent, le stress est décrit comme une tension physique, mentale ou émotionnelle perçue par votre corps. On l'appelle parfois fight or flight syndrome, le syndrome de lutte ou de fuite. Votre pouls augmente, votre souffle s'accélère et vos muscles peuvent se raidir. C'est en effet une réponse conçue pour protéger votre corps en cas d'urgence.
Ok, alors qu'en est-il de la façon dont cela affecte notre corps et peut-être même notre santé mentale? Comment pouvons-nous en reconnaître les signes?
Ah
bien, c'est une bonne question. Encore une fois, si vous vous sentez stressé à propos de quelque chose, votre pouls peut augmenter, vous pouvez ressentir de maux de tête et, dans certains cas extrêmes, une attaque de panique ou quelque chose du genre. Donc, si vous vous sentez dans un état inhabituel, vous devriez examiner ce que vous avez et voir si c'est là un rapport avec du stress dans votre vie.
Donc, lorsque nous examinons la question, vous avez mentionné le fait que la cause du stress chez une personne peut donner des résultats différents chez d'autres personnes. Alors, que pouvons-nous faire pour prévenir ou réduire le stress de façon générale?
Nous pouvons gérer notre stress. En fait, notre stress n'est rien d'autre que la manière dont nous percevons les choses. Il existe de nombreuses techniques de gestion du stress. Si vous allez sur stress.org, notre site web, nous y avons beaucoup de façons de gérer le stress. Et les manières sont différentes pour chacun, mais de façon générale, nous pouvons tous faire certaines choses. Le sport est toujours un excellent moyen de réduire le stress. Manger correctement, passer une bonne nuit de sommeil. C'est juste du bon sens. Mais ce qui va soulager votre stress sera un peu différent pour chaque personne. Certaines personnes peuvent peindre et d'autres peuvent faire de l'exercice physique.
OK, Mr. Hagman, thank you so much for OK, d'accord, Monsieur Hagman. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Nous vous avons posé la question suivante. Que faites-vous pour vous détendre lorsque vous êtes stressé ou comment faites-vous pour réduire votre stress? Voici ce que certains d'entre vous ont répondu sur Facebook. Martina Kabamba dit: pour me détendre, j'écoute de la musique et surtout ma chanson préférée. C'est un grand remède pour moi. Jeff Munda nous dit: quand je suis stressée, j'anime mes proches avec de l'humour, un peu de comédie. Je souris, je ris même. Et Daouda Soare qui dit: je fais du sport quand je suis stressée, tout simplement. Ensuite, Erjin Gala nous dit: quand je suis stressée, je lis les commentaires sur Facebook notamment. Mais merci d'avoir partagé avec nous vos astuces. À Los Angeles, une thérapeute du mouvement de la danse aide les patients à réduire leur stress et leur anxiété tout en apprenant à vivre en paix. Sa méthode encourage à passer du temps à la plage et danser pour chasser la douleur, la peur et le désespoir. Angelina Bagsarian a rencontré la thérapeute pour en apprendre davantage sur le pouvoir de la danse.
Yulia Wisniewski explique que chaque mouvement contribue à un objectif. Pendant qu'elle écoute de la musique via son casque, Yulia danse et s'abandonne à une véritable catharsis de ses émotions.
Mon père est décédé subitement il y a 9 ans et j'ai réalisé que la danse m'aidait à gérer mes émotions et ma tristesse. J'ai pu mieux me comprendre en dansant.
Ce qui a commencé comme un passe-temps est devenu un métier. Yulia s'est lancée dans la thérapie à travers la danse. Elle a obtenu un diplôme de conseillère en santé mentale et s'est spécialisée dans la thérapie par les arts expressifs et les mouvements de danse. La thérapeute a su choisir la salle de danse idéale, une plage dorée de Venice Beach à Los Angeles.
Nous étudions les liens étroits entre les mouvements du corps et les émotions. Nous apprenons à utiliser la musique et la danse pour nous aider à nous débarrasser de la dépression, à réduire le stress et à surmonter les traumatismes de l'enfance.
Chaque lundi, des dizaines et parfois même des centaines de personnes se rendent sur cette plage. Munies de casques, elles pratiquent la danse thérapeutique. Les cours coûtent 20 dollars, mais même ceux n'étant pas en mesure de payer sont toujours les bienvenus. Pour Yula, c'est très simple. Si quelqu'un ressent le besoin de venir, il est accueilli les bras ouverts.
Les cigarettes électroniques représentent un danger majeur selon un rapport du Centre de contrôle et de la prévention des maladies aux États-Unis. Supposée être une alternative positive au tabagisme traditionnel, l'utilisation des cigarettes électroniques, aussi appelées vapotage, ont en quelques années séduit des millions de consommateurs, particulièrement les jeunes. Mais la cigarette électronique serait-elle sans effet néfaste sur la santé ? Jérôme Adams, chirurgien généraliste aux États-Unis, nous en dit plus.
Nous savons que l'exposition à la nicotine pendant l'adolescence peut nuire de manière unique au cerveau en développement des adolescents, affectant ainsi l'apprentissage, la mémoire et l'attention. Nous savons que l'exposition pendant cette période critique du cerveau peut entraîner d'autres dépendances et nous savons que la notion selon laquelle l'aérosol de cigarette électronique est aussi inoffensif que la vapeur d'eau, quelque chose que même mon fils de 14 ans pensait être vrai, est un mythe. Un tiers des jeunes qui ont déjà consommé des cigarettes électroniques ont consommé de la marijuana. Pourtant, deux ans après que mon prédécesseur a tiré la sonnette d'alarme, l'utilisation de la cigarette électronique chez les jeunes a explosé. Si bien qu'aujourd'hui, je déclare officiellement la consommation des cigarettes chez les jeunes une épidémie aux États-Unis.
Le premier décès lié à la cigarette électronique a été enregistré récemment ici aux États-Unis. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la cigarette électronique est incontestablement nocive. Que vous viviez dans une ville ou en campagne, il y a toujours des choses dans l'air invisibles à l'œil nu qui pourraient vous faire éternuer ou causer une maladie grave. La détection de ces particules microscopiques telles que le pollen, les moisissures et les polluants pourrait prendre beaucoup de temps et coûter cher. Un laboratoire de l'Université de Californie à Los Angeles tente de résoudre ce problème en mettant au point un détecteur portable d'allergènes pour les consommateurs. Reportage d'Elisabeth Lee.
Les plantes à fleurs et les animaux domestiques peuvent sembler jolis et mignons, mais ils émettent tous de petites particules dans l'air pouvant causer des problèmes de santé. Aydoan Özcan et son équipe à l'UCLA développent cet appareil portable appelé microscope informatique, capable de détecter des particules telles que la moisissure, le pollen et même les polluants présents dans les maisons et même les voitures.
Cet appareil peut examiner la contamination de l'air, les particules, leur densité.
Özcan affirme qu'il est précis à plus de 90% dans l'identification des allergènes tels que le pollen et les moisissures. Les particules de l'air sont déposées sur un matériau transparent jetable à l'intérieur. Ensuite, une lumière brille sur ces particules, créant des hologrammes.
Il faut ensuite un moteur de calcul pour reconstruire cet hologramme et créer des images que nous sommes habitués à voir à travers un microscope classique comme celui-ci. Cet appareil est donc contrôlé par un téléphone portable. Le téléphone lui-même a une application spécifique qui est l'interface utilisateur graphique pour montrer ce que vous avez capturé ainsi que les résultats.
Selon Özcan, l'imageur pixel de 10 ou 15 mégas dans les téléphones mobiles permet que ce détecteur d'allergènes fonctionne. L'imageur enregistre des motifs de diffraction provenant des particules.
Grâce aux milliards d'utilisateurs de ces téléphones mobiles qui ont besoin de ces caméras, nous pouvons les miniaturiser tout en restant compétitifs en termes de performance par rapport à une instrumentation de pointe.
Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons de la drépanocytose. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à bientôt.
C'est ici que prend fin notre magazine Santé, votre avenir de cette semaine. Il était consacré à l'impact de la recherche biomédicale en Afrique sur la santé des populations. Nous avons interviewé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Ensuite, vous avez suivi Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Ce rendez-vous santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro et de Nelson Lopez qui était à la console. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.